Merci. Excusez-moi, je suis un peu au bord de l'extinction de voix. J'espère que c'est quand même audible. D'abord, merci à Michel Berry de m'avoir invité à être un commentateur. Et encore beaucoup plus, merci à Christophe et à ses collègues. J'ai eu aussi le privilège d'avoir une version du bouquin au début de l'été. Je l'avais parcouru rapidement. J'étais très intéressé. Je l'ai relu beaucoup plus attentivement ces derniers jours. Et je dois dire que même à la relecture, d'une part, je ne me suis pas ennuyé. Bien au contraire, je me suis délecté. Donc c'est un bouquin extraordinaire par, un peu ce que disait Michel Berry tout à l'heure, la richesse de l'analyse et de l'information et la lucidité de cette analyse. Et aussi par des positionnements conceptuels qui font que ce n'est pas simplement un bouquin descriptif. Et je crois que ça, c'est remarquable. Et donc simplement, je voulais féliciter Christophe et ses collègues pour avoir fait ce bouquin. Alors par rapport à ça, que reste-t-il à dire ? Peut-être pas grand-chose. Il y a trois thèmes, si vous voulez, quand même trois réalités qui m'ont frappé dans cette histoire comme étant extraordinaires, comme reflétant un développement de Renault qui est hors du commun. Le premier, c'est sur l'internationalisation. Le deuxième, c'est ce que moi j'appelle dans mon jargon agilité stratégique. Et le troisième, c'est ce que j'appelle plateforme de croissance. Je crois que c'est ce que Christophe appelle lignée. Plateforme de croissance, non pas au sens étroit de plateforme telle qu'on l'utilise dans l'automobile, mais finalement d'avoir un produit, mais de ne pas simplement voir ce produit comme un produit unique, soit qui est une exception, soit qui rentre dans la règle, comme il le disait tout à l'heure, mais qui devient la base d'un développement finalement d'une lignée ou d'une ligne de produits et qui donc devient une plateforme de croissance. Alors si je reviens une seconde sur les trois thèmes en quelques minutes, le premier, celui qui m'a peut-être le plus frappé, c'est celui de l'internationalisation. C'est-à-dire que à lire cette histoire, on voit Renault passer en quelques années, une décennie, pas plus, d'un modèle finalement d'innovation qui était, je dirais, extrêmement classique, voire un peu rétrograde et dépassé, qui était, on conçoit pour le marché domestique, on fait dans un technocentre unique qui est bien entendu situé dans le pays d'origine, et on aligne les deux. Et en quelques années, c'est une transformation complète. C'est-à-dire qu'on passe de ce mode de création de connaissances ou création de produits ou création de concepts sur le marché intérieur et ensuite projection des résultats vers des marchés assez semblables, typiquement voisins, donc on va en Belgique, en Allemagne, en Espagne, etc. On passe de ce modèle très rapidement à un modèle qu'on peut appeler, que certains de mes collègues ont appelé transnational. Là, je me réfère à des gens comme Bartlett et Gauchal, qui est de dire on va développer quelque chose, mais avec la double stimulation d'un marché nouveau et d'un produit nouveau. Donc finalement, on va faire quelque chose, et je caricature un petit peu et je simplifie la richesse du bouquin, bien entendu, mais on va faire quelque chose pour la Roumanie. Et on va faire quelque chose pour la Roumanie parce que c'est un marché, parmi les pays émergents, particulièrement difficile, particulièrement stimulant. Donc, et à tort d'ailleurs, au départ, on pensait qu'on pouvait partir de la, enfin, se développer de Roumanie vers d'autres pays d'Europe orientale. Pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Par contre, on rebondit ensuite vers d'autres modes d'innovation. Donc, je crois qu'il y a un premier mode transnational qui est de délocaliser, peut-être pas l'activité d'innovation, puisque le produit a été développé assez largement en France, si j'ai bien compris, mais en tout cas la partie marché, la partie compréhension du besoin et une grande partie de l'innovation au-delà du produit. C'est-à-dire effectivement la chose qui est frappante, et ça tu l'as très bien dit aussi, et très bien écrit, c'est que c'est une innovation stratégique. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est pas seulement un produit, c'est un concept, c'est un système de distribution, c'est un système de production, c'est une simplification des processus, c'est la capacité de mettre en œuvre une intégration assez complexe de méthodes de production qu'on avait, je dirais pas un peu oubliées, mais laissées en arrière. Donc il y a toute une innovation très multidimensionnelle, là, qui est vraiment stratégique, au sens qu'effectivement, elle est relativement unique et probablement très difficile à reproduire. Je ne sais pas d'ailleurs si des entreprises ont essayé de reproduire la Logan ou pas. Et quand tu disais tout à l'heure, personne n'a réussi, est-ce que ça veut dire que personne n'a essayé? Ou est-ce que ça veut dire effectivement que certains ont essayé et s'ils ont cassé les dents? Mais je crois que là, il y a un élément très important. Donc il y a un passage, si vous voulez, d'une innovation très classique à une innovation transnationale. Il y a ensuite un mot un peu buzzword, en tout cas dans le monde anglo-saxon maintenant, qu'on appelle reverse innovation. Je ne sais pas comment traduire en français, mais qui est l'idée qu'on va finalement faire de l'innovation dans des pays justement comme la Roumanie ou autres, mais qui sont des pays émergents où les exigences sont très élevées. Et on se servira des résultats de cette innovation pour transformer les marchés intérieurs. Ça a été popularisé autour de General Electric et de beaucoup d'autres. Donc il y a ensuite un mouvement de reverse innovation, quand la Logan est introduite en Europe occidentale, et il réussit. en France et ailleurs. Il y a un mouvement, bien sûr, et ça aussi bien Bosch que Logan sont un exemple de ce qu'on appelle l'innovation frugale, c'est-à-dire ne pas effectivement essayer de dépiauter, de désosser et d'amincir un produit existant, mais repartir dans un concept différent en disant on veut vraiment faire quelque chose. L'une des choses les plus frappantes, c'est quand tu disais qu'il y avait un tiers des pièces ou un tiers du nombre de pièces d'autres véhicules, donc je crois que ça c'est extrêmement important. Et puis dernière chose, il y a une notion que moi j'appelle parfois innovation métanationale, qu'on voit à la fin de l'histoire, qui est de dire on arrive à un fonctionnement en réseau où il y a des contributions à l'innovation aussi bien au niveau de la compréhension des besoins et des marchés que des compétences techniques et des compétences industrielles qui en fait émanent de différents pays et de différentes zones géographiques dans le monde et où l'entreprise fonctionne beaucoup plus comme un réseau d'innovation. Donc ce qui m'a frappé, c'était que cette innovation stratégique était en fait devenue le catalyseur ou le déclencheur d'une transformation accélérée et très très profonde du mode d'innovation d'une entreprise qui était au départ une entreprise très classique, comme la plupart des entreprises en fait, qui innovent dans leur pays d'origine et qui ensuite essayent de déployer ces innovations dans des marchés qui ressemblent à leur pays d'origine ou qui attendent que les pays émergents aient émergé suffisamment, entre guillemets, pour que effectivement les classes moyennes s'y développent et que les produits y trouvent un marché. Deuxième thème qui m'a frappé, ce que je ne connaissais pas, et que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est cette notion d'agilité stratégique. C'est-à-dire cette notion que finalement, il y avait une vision, il y avait une ambition, il y avait un concept de départ qui remonte aux années 90 sur on peut ne pas chercher à compléter la gamme et la marque Renault par le haut, mais on peut le faire par le bas, à condition de ne pas faire trop de compromis. Donc il y avait toute une idée aussi de positionner un produit qui soit une vraie voiture, qui ne soit pas justement un dérivé d'un tricycle, d'un triporteur. Mais en même temps, une extrême flexibilité dans la mise en œuvre, avec des choses très frappantes. Dans l'interview de Louis Schweitzer, il y a une chose qui m'a frappé en particulier, qu'il disait à ce moment-là, c'est, en parlant de Dacia, je cite à peu près de mémoire, c'est peut-être pas verbatim exactement, mais c'est, on avait l'usine, il fallait bien en faire quelque chose. Donc cette notion que c'était peut-être plus facile de faire l'investissement dans une usine, surtout que finalement l'usine, on l'avait, il fallait la transformer, la moderniser, etc. Mais en gros, on la payait pas grand-chose, voire rien du tout, mais que ça devenait finalement le levier qui permettait de faire la voiture. Et lié à ça, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup frappé. Alors là, je parle évidemment sous contrôle de l'entrepreneur ici, mais c'est aussi qu'il n'y a pas eu un dérapage qu'on voit dans la plupart des entreprises, qui à partir du moment où le PDG s'engage, devient le champion d'un projet et s'engage sur ce projet, la tendance c'est en fait de donner trop de ressources au projet. Et là, il y a une dimension un peu paradoxale, c'est que c'est à la fois un engagement fort et en même temps, et ce qui est très moteur de l'innovation, une contrainte assez forte sur les ressources. Et donc un processus d'engagement qui conduit à peu de dérapages, qui n'a pas conduit à des dérapages. Contrairement, par exemple, si certains d'entre vous sont familiers avec... Il y a eu beaucoup d'articles écrits en particulier par Robert Brueggemann sur Intel. Et on s'aperçoit que lorsqu'Andy Grove, qui a été PDG d'Intel pendant des années, avait un projet dont il devenait le champion, typiquement, le projet était surfinancé et échouait. En partie parce qu'il n'arrivait pas à établir les critères de succès et en même temps parce qu'il avait trop de ressources. Donc là, il y a un équilibre extraordinaire entre avoir d'un côté un engagement et d'autre part avoir une capacité à limiter les ressources, en fait à faire de l'innovation frugale ou de l'innovation maigre, entre guillemets. Et là, il y a beaucoup, à mon avis, d'équilibre et d'agilité. C'est aussi toute l'évolution, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il y a dans le bouquin, vous pourrez le lire, mais c'est l'évolution de marché en marché, c'est le rôle du Brésil, c'est les différents relais qui ont été trouvés dans le temps, avec un caractère extrêmement opportuniste, finalement. C'est on rebondit géographiquement dans différentes parties du monde, on élargit progressivement la gamme, on mobilise des ressources. J'ai été frappé par la capacité de réactivité, si vous voulez, qui est démontrée autour de ce projet. Et finalement aussi une remise en cause des modèles dominants. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est plus du tout dans la logique du groupe Volkswagen où effectivement, on innove au sommet avec Audi et puis on descend progressivement et on arrive à Skoda ou à Seat. On est dans une logique complètement différente. Donc il y a une grande capacité d'innovation stratégique. Et puis dernier point, juste encore pour le mentionner, parce que là, encore une fois, c'est très bien décrit dans le bouquin, dans les derniers chapitres, c'est cette notion que moi j'appelle plateforme de croissance, que Christophe et ses collègues appellent lignée de produits, mais qui est la capacité, si vous voulez, à se servir d'un premier succès pour continuer à la fois à différencier et à intégrer la suite. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on trouve, c'est soit une réintégration, donc finalement, on se sert d'un succès, mais ce succès reste un peu sans lendemain parce qu'on retrouve les modes de fonctionnement et les modes de développement qu'on avait avant. Ou alors, on crée finalement quelque chose de très autonome, mais on ne donne pas les ressources nécessaires. Et là, je vais conclure, il y a aussi un passage extrêmement intéressant qui m'a frappé quelque part dans le bouquin, c'est où Carlos Ghosn, prenant la succession de Louis Schweitzer, dit finalement qu'il a été convaincu le jour où il a compris que ça allait enrichir la capacité d'engineering de Renault. Et je crois que c'est extrêmement important aussi, c'est de dire qu'on arrive effectivement à partir d'une plateforme à développer des compétences plus larges, une base plus large de compétences et à redéployer et à réintégrer, mais sélectivement, certains éléments. Donc c'est finalement, qu'est-ce que l'entreprise dans son ensemble apprend, si vous voulez, de la capacité à développer la Logan et ses dérivés ou les différents produits qui en ont résulté. Donc je crois qu'il y a sur ces trois dimensions-là, en tout cas, une histoire extrêmement riche, extrêmement originale, d'une grande adaptabilité, d'une grande flexibilité, qui est en fait qui est passionnante. Merci.